sens pas bien.
Oh non, il marche pas.
Je vais vous suivre le fil d'Ariane. Ça a bouclé une espèce de boîte en face là. Donc impossible d'avoir accès au micro. Ça veut dire que si. Donc ça veut dire que, comme d'habitude, bien sûr, vous avez du fer, mais là, vous avez des gens supplémentaires. Donc voilà. Est-ce que ceux qui sont à la périphérie entendent? Oui. De toute façon, c'est bien de faire ça parce que. Oui, alors. D'accord.
Mais tiens, elle est là, la fille.
Bah, je pense que ça va être la même chose. Hein. Ah non, c'est la moindre.
Tiens, pas celui.
Quand finalement, on s'entend. Enfin, je veux dire, on s'entend.
T'as les deux, tu peux prendre parce que
rien sans les
voilà.
Voilà,
on y va, hein, parce que je
crois
qu'on a perdu un peu de temps. On on en était donc à ce Japon du 8e siècle, qui revêt donc des habits nouveaux, je dirais. Donc qui revêt des habits nouveaux, puisque, semble-t-il, à la cour de Yamato, ils ont définitivement décidé d'adopter donc l'État chinois. Alors, on en était en fait au grand principe politique, puisque je vais vous énumérer un certain nombre de principes. Vous n'oubliez surtout pas, même si j'ai l'air de me répéter, que dans un devoir, dire que les choses sont ainsi est parfaitement faux. Et ce sont des principes, donc il n'est pas du tout évident qu'ils aient été réellement appliqués. Et il faut vraiment qu'il y ait cette idée en tête. Donc on en était à l'empereur. Avec l'empereur, c'est clair de toute façon. Ah non, monsieur, non, c'est bon. On en était à l'empereur. Avec l'empereur, c'est clair, de toute façon, il est tellement peu adapté notre tenno japonais à la réalité chinoise que les codes, en dehors du nom qu'il lui donne, ne lui donnent quasiment, aucun détail à propos de cette figure, qui reste centrale cependant. On en était là. On avait vu que la raison essentielle, c'est que, c'est des gens de la cour de Yamato qui héritent ce pouvoir, je dirais, de parent en parent, pas forcément de père en fils, et que dans la mesure où ils sont considérés selon le Shinto comme des kami visibles et que les kami, a priori, n'existent, évidemment, ça explique le silence total qui est fait sur leur personne. Alors, il existe cependant quelques traits communs entre notre Tenno version japonaise et notre Tenno version chinoise. Très peu de points communs, mais parmi ceux-là, une fonction qu'ils auraient. On parle de maître du temps. Voilà, donc les tenno japonais sont comme les tenno chinois, maîtres du temps, en ce qu'ils décident, donc, excusez-moi, c'est pas très clair, mais c'est normal, j'étais un peu troublée là. D'ici 5 minutes, je reprends mes esprits. Donc, en ce qu'ils décident, en fait, tout ce qui concerne le temps, la façon de compter le temps, aussi bien d'un point de vue abstrait que d'un point de vue concret, comme vous allez le comprendre. Donc, d'une part, ils sont maîtres du temps, nos tenno japonais comme nos chinois, parce que, par exemple, ce sont eux, vous le savez, depuis le premier cours, qui décident du système de. Ils sont maîtres du temps parce que ce sont eux, c'est une notion que j'avance, j'en avais déjà un tout petit peu parlé, je ne vous explique pas tout pour l'instant, mais je mets au moins le mot au tableau pour préparer les esprits, parce que ce sont eux qui ont adopté, semble-t-il, au 7e siècle, donc même avant le 8e où on est, ce système qui consiste à compter les années dans le cadre d'un cycle composé de 60 années. Donc c'est une autre façon. Qui vient de Chine également, l'on considère qu'une date doit être située dans un cycle sexagésimal. Sexagésimal, ça veut dire 60, de 60, en l'occurrence de 60 années. Donc nous sommes, je ne sais plus, là, cette année, dans les 20e années, enfin 22, 23, je ne sais plus exactement, je vous dirai ça moi-même, si je peux me permettre, en vous donnant en quelle année du cycle sexagésimal on passe lorsqu'on arrive donc au 1er janvier de notre calendrier grégorien. Donc le cycle sexagésimal, façon de compter le temps à la chinoise, est importé donc par les tenno et en ce sens, font d'eux donc des maîtres du temps. Et troisième élément qui font d'eux, donc comment dire, qui c'est une orthographe parce que j'écris très peu, et qui font d'eux également des maîtres du temps, le fait que le palais impérial, vous le savez donc de plus en plus, donc au 8e siècle, Anala, comporte un certain nombre de clepsydres, c'est-à-dire d'horloges, donc on avait des horloges à l'époque, qui fonctionnent sur le principe de l'écoulement de l'eau, et à partir du temps que l'eau va s'écouler, on peut ainsi calculer donc le temps. Voilà. Quelques éléments qui font de notre tenno japonais quand même un personnage qui ressemble à certains égards à notre tenno chinois, en dehors de ça et du mot bien sûr, pas grand chose à voir. Donc ça c'était le grand principe politique, il est absolument essentiel de retenir cela. Bon, alors... ça, c'est pour les grands principes politiques. Je passe aux grands principes politiques, c'est que leur faire est au centre de tout point. Les grands principes administratifs, maintenant, puisqu'en fait, peut-être à la fin, dans la seconde moitié du 7e siècle, mais de façon absolument certaine, on l'a vu au 8e siècle, la cour de Yamato adopte un état à la chinoise. Donc, c'est bien un Mitsuyo Kopka, comme vous le savez. Et donc là, on va détailler un peu, c'est un peu fastidieux, mais vous verrez que c'est finalement assez passionnant que de voir comment on a importé ce système étatique qui profite, donc ça c'est vraiment l'idée essentielle, qui profite avant tout aux anciens chefs de Uji. Voilà. Donc vous savez que toute la société précédente jusqu'au 7e siècle est composée d'un certain nombre de dirigeants, qu'ils sont à la tête des Uji, on les appelle les Uji no Kami. Ce qui est essentiel à savoir, c'est que tout le système administratif de ministères, de bureaux, de fonctionnaires, de rangs, etc., que je vais maintenant vous décrire, en fait, est au profit des membres des Uji. Et donc ça, c'est essentiel pour comprendre comment on composé de Uji et de V, à un autre Japon, celui en fait qui formellement perdura jusqu'au 19e siècle. Tout ceci donc est en faveur des Uji, c'est fondamental. Alors, d'abord, il faut savoir qu'à partir du moment où on introduit ces codes, sans doute donc celui de Taiho et de Yolo, on décide de créer tout un tas de ministères à la chinoise. Alors, je vous ai quand même apporté le livre que, à mon avis, aucun d'entre vous ne lira, mais quand même, il existe une étude assez extraordinaire tout de même sur tous ces bureaux, sous-bureaux, ministères, bureaux de police, censorat, département et autres types d'institutions qui ont été donc appliquées à partir, certainement, on va dire, la grande historienne du Japon, en France. En tout cas, mais elle est aussi connue sur le plan international, il n'y en a pas 36 ans. Et donc, dans ce livre-là, qui, à mon avis, vous servira surtout mon corps, qui s'appelle « La cour et l'administration du Japon », elle vous décrit, en fait, tous ces bureaux, toutes leurs fonctions sur le papier, avec moult notes. C'est... Pardonnez-moi, mais si vous voulez avoir des détails sur lui, surtout, n'hésitez pas à consulter cet ouvrage. Voilà, je ne vais pas vous décrire évidemment tout ce dont elle parle, hein, sinon je vous perds au bout de 10 minutes. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, on va plutôt parler des fonctionnaires plutôt que de tous ces bureaux, ministères, etc. Et quand on parlera de ces institutions, ce sera toujours donc pour illustrer, et notamment pour illustrer cette problématique. Mais comment donc les Japonais ont-ils importé chez eux un système totalement étranger, complètement de l'appliquer au Japon? La réponse, c'est ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils ont fait surtout ce qu'ils ont voulu. En fait, ils ont fait les choses de façon assez capricieuse. Et Francine Rey elle-même vous dit, en fait, ce qui est importé au Japon, ce qui est installé au Japon ressemble assez peu finalement à ce qui sera dans la Chine des temps. Donc je vous passe les bureaux, les ministères, etc. C'est pas très japonaise au 8e siècle. D'ailleurs, moi-même, je le dis en passant, peu, et je n'ai pas sûr que ça m'intéresse très profondément en plus. Alors, on va surtout parler de l'aspect plus humain, je dirais, c'est-à-dire de ces fonctionnaires. On va les avoir au service donc de cette cour, ex-cour de Yamato, nouvellement cour de Mitsuyo, et qui dépend entièrement, en principe, de l'empereur. Que je le répète, l'empereur reste la fille. Donc, fonctionnaires, on va dire fonctionnaires, hein, on n'a pas d'autre mot en français pour désigner des gens qui travaillent au service d'un État, et puis je consens à utiliser le terme d'État à partir du moment où se met en place le Mitsuyo Kokemo. Vous pensez aussi qu'il y a des femmes, des fonctionnaires femmes et des fonctionnaires hommes. Alors, ceux-là sont au service de l'État, c'est-à-dire finalement, c'est-à-dire, sociologiquement parlant, de ce clan qui domine depuis la fin du IVe siècle. Ils sont, ils reçoivent chacun de ces fonctionnaires, et ça c'est très important, à la fois une fonction et un rang. D'abord, d'ailleurs, surtout, un rang. On les place, on les met dans des petites cases, je vous explique dans un instant comment, mais aussi donc une fonction, c'est-à-dire quelque chose à faire, impérial. Alors en ce qui concerne les rangs, il y en a au total 9, les symboles de l'impérial. Ils sont classés en 9 rangs, mais vous faites attention, il y a donc en fait un rang de début parmi ces 9 rangs, donc il y a un rang de début par lequel on commence. Ça carrière dans l'administration à la chinoise, il y en a 8 autres. Et plus vous montez dans les hiérarchies, plus vous vous approchez du chiffre 1. Dès le début, on considère que les hauts fonctionnaires sont ceux qui occupent les rangs de 5 à 1. Donc évidemment ceux qui sont au rang 4, que ceux qui sont au rang 3, etc. Donc de 5 à 1, au début, là, au 8e siècle, quand le système commence, donc dans l'élite de ces fonctionnaires au service. En fait, avec le temps, vous verrez, sans doute des gens considérés comme un haut fonctionnaire, c'est-à-dire comme quelqu'un d'important, hein, avec plus ou moins de pouvoir dans ce système administratif, vraiment atteindre le degré 3, c'est-à-dire le rang 3, 2 et 1 deviennent, permettent l'accès à cette. Donc 9 rangs, 1 de début, 8 autres, le numéro 1, le rang 1 étant évidemment le plus important. Comme on essaie de satisfaire tout le monde, de classer tout le monde, c'est-à-dire en fait tous ces gens qui appartiennent à des Uji, entre le 7e et le 8e siècle, comme on essaie de ranger tout le monde, et puis qu'on copie aussi le système chinois, on subdivise donc ces 9 rangs en des rangs d'échelons moyens, petits, etc. Ce qui fait mal, il faut plutôt compter une trentaine de rangs. Donc il y en a 9 fondamentaux, mais comme ceux-là sont subdivisés, il faut compter une trentaine de rangs. Donc vous avez des rangs, vous avez également des fonctions, disais-je, donc des fonctions, des titres. Donc, vous n'êtes pas à rang 1, 2, 3, on vous donne un titre et on vous donne quelque chose à faire. En tout cas sur le papier, quelque chose à faire. Alors en ce qui concerne ces titres, vous verrez, je ne cesserai de parler de ces titres, pas vous les énumérer, d'abord ça ne serait pas très intéressant, et puis ensuite, vraiment, comme je vous l'ai dit, le système dure jusqu'au 18e et même jusqu'au 19e siècle, faire la cour à la cour impériale de Kyoto pour récupérer tel ou tel titre, donc on verra très concrètement au fur et à mesure du fait. Par exemple, on peut être ministre de la gauche et ou ministre de la droite. Là où on rentre dans l'exotisme, c'est qu'en Extrême-Orient, la gauche est valorisée par rapport à la droite. Donc le ministre de la pas seulement pour les ministres de la gauche, a la préséance sur le ministre de la droite. Et quand on regarde en fait le livre de François Nérail, ils font quand même la même chose. Mais comme on copie là le système chinois, finalement, peu importe que les deux fonctions reviennent au même, en dehors du fait que la droite, on copie le système chinois, donc parfois on ne se pose pas trop de questions. Vous avez un ministre dont on parlera assez souvent, alors qu'il a été assez peu en fonction, c'est le ministre des Affaires suprêmes. Donc ça c'est important, vous verrez, ministre des Affaires suprêmes. D'ailleurs, c'est le premier ministre, où j'aurais peut-être pu commencer par lui d'ailleurs, parce que c'est le premier ministre dans la hiérarchie des fonctions. Les affaires suprêmes, le titre dit tout, je crois, et lui est censé tout chapeauter. Chaque ministre ou chaque personne, vous avez toutes sortes de. Vous avez des censeurs, vous avez toutes sortes de titres que je ne donne pas, mais chaque fonctionnaire qui reçoit de l'empereur, voilà. C'est là que vous vous dites que la personne, que la figure de l'empereur est centrale. C'est là que vous vous dites aussi, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est là que vous vous dites que le système Uji no Kami du clan dominant, puisque finalement, quand il instaure ce système-là, il s'arrange pour que chacun dépende de lui pour sa fonction, d'accord? Et aussi pour son rang, où on voit, je dirais, les aspects politiques très forts. Ça rend ce système-là, rend de fait notre Uji no Kami du clan dominant, le rang de toute la personne essentielle. Au 8e siècle, vous verrez, nous aurons des empereurs très puissants, vraiment, pour que celui-ci fonctionne. Et puis au fur et à mesure que le temps passera, on verra pour quelle raison, en fait, cet empereur perdra beaucoup de son importance. Il sera assez tard dans l'histoire du Japon. Alors, voici pour... donc j'ai parlé des ministères, c'est-à-dire qu'en fait, je vous ai juste dit que je ne vous en parlerai pas. Je vous ai parlé de ceux qui sont au sein de ces ministères, qui sont tous nommés par... qui, c'est essentiel, je le répète, sont des anciens membres importants des clans. C'est à eux que l'on donne ça. Ce n'est pas aux paysans de coin, c'est vraiment à eux que l'on donne ça. Et donc, en fait, on passe, c'est comme ça qu'on assure la transition de Moutier et de B à une société à la chinoise. Ces gens-là, qui était important autrefois, que l'on va donner tous ces titres. Et il me reste à vous dire que ces fonctionnaires sont formés eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se contente pas de distribuer des rangs et des fonctions. On adopte le système à la chinoise reposant en partie sur le mérite, c'est-à-dire sur les examens. Avant de passer l'examen, il faut être formé, disais-je. On est formé dans des institutions spéciales, que non. D'une part, lorsqu'on est formé dans l'école de la capitale, en l'occurrence Nala, parce que le système forme les fonctionnaires donc à la capitale du moment, Nala, Bai Gaku. Ça devrait vous dire quelque chose, Bai Gaku, parce que je suppose que dans tous vos cours de première année, Kuni Kimas, je crois que ça fait partie des premières phrases qu'on apprend des langues zo, on est bien content d'aller Tcho, Bai Gaku Ni Kimas, et on peut rajouter Manichi tous les jours. Voilà, première phrase, enfin moi c'est les premières phrases que j'ai apprises. Et or, Bai Gaku est un très vieux terme. Donc, qui date au moins de l'état régi par les codes, et qui signifie, donc, Gaku, ce sont les études, Dai, ce sont les grandes études, et c'est le nom donné à ces institutions où l'on formait les fonctionnaires, donc, au 8e siècle. Alors, ça, c'est pour la capitale. Quant aux provinces, puisque vous savez qu'à partir de la seconde moitié du 7e siècle, on a ajouté le territoire en 60 et quelques provinces, elles ont sur le papier, peut-être pas chacune sur le papier, en tout cas, elles sont censées posséder, pour une bonne partie d'entre elles, mais en fait, on n'est vraiment pas sûr que c'est l'école de fonctionnaires locales, hein, parce que tout le monde n'est pas censé se rendre à la capitale, appelle des Kokugaku. Alors, Kokugaku, Gaku, ce sont toujours les études. Koku, c'est Kuni, en fait, qui appartiennent, les écoles qui appartiennent et qui ont pour siège une province particulière de ce système et quelques provinces. Donc, une Daigaku dans le centre, dans la capitale, et des Kokugaku en province. Qu'est-ce qu'on y apprend? Donc, dans, je dirais, ces écoles normales d'administration à la chinoise importées par les Japonais, on y apprend des choses aussi exotiques que la médecine. Enfin, je dis exotique pour nous, parce que les ENA, de la haute administration française, on ne les forme pas, enfin, que je sache, à la médecine. La médecine, donc, étant considérée en Chine, c'est-à-dire forcément au Japon, quand on importe le système, comme, je dirais, la connaissance... comme un mode de connaissance de l'univers, puisque le corps humain, entre autres, reflète le fonctionnement de l'univers. Il n'est pas très étonnant, finalement, quand on connaît l'Extrême-Orient, d'apprendre ce qui est enseigné à ses fonctionnaires. Donc, la poésie chinoise, voilà, je ne pense pas que nos hauts fonctionnaires, je n'ai que parmi nous, qu'on apprenne la poésie médiévale à l'ENA. Non, je suis en train de me demander est-ce que ça serait pas mieux, j'en sais rien. On leur enseigne ça. En tout cas, voici ce qu'on apprend. Parce que dans toutes les... Enfin, là, je vous donne une explication générale, mais on pourrait même parler d'Angleterre jusqu'au XVIe siècle et en France, la poésie a toujours été valorisée, en fait, dans toutes les sociétés traditionnelles, plus que la prose et plus que d'autres formes, en fait, d'écriture. Donc, c'est pas très étonnant non plus, mais que de voir qu'un système traditionnel repose sur l'apprentissage de cette... on verra que la poésie a très longtemps constitué, dans le monde de la cour, un must absolu donc pour les fonctionnaires, être un bon fonctionnaire poète. Ça commence au 8e siècle. Donc la médecine, la poésie, mais aussi l'étude des classiques chinois. Donc dans les classiques chinois, vous avez, je dirais, ceux qui font de la littérature, romans chinois, mais surtout l'histoire, par exemple. L'histoire, on apprend à étudier dans des textes historiographiques de comment on est formé. Et puis une fois que tout cela est ingurgité, je dirais, on passe des examens. On passe des examens. Voilà, donc ça c'est pour le principe. Voici donc nos fonctionnaires revêtus donc, de charges, tous possédant un rang dans cette hiérarchie des 9 rangs et formés donc, dans des institutions spéciales prêts à servir l'État. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ça, de nouveau, peut-être que les codes de la seconde maturité sexuelle ont déjà inspiré le système. En fait, on n'en sait plus rien, mais de façon absolument certaine, à partir de Taibo et de Yolo, donc les années 700-710, c'est mis en place au Japon et ça va perdurer jusqu'au 19e. Alors, ce qui est important, outre le fait que nos fonctionnaires, qu'ils soient chefs ou qu'ils fassent partie donc, de la Dora, outre cela, ce qui est important, c'est de voir que ces gens-là ont un certain nombre de privilèges et constituent donc tous nos fonctionnaires, une partie d'entre eux, assurément ceux qui sont au-dessus de l'échelon 5, constituent vraiment l'élite, la nouvelle élite en fait, de cette nouvelle, vous m'avez bien compris, non pas parce que ce sont de nouvelles personnes qui arrivent produites par ce système chinois, mais parce que en fait, ces gens qui étaient autrefois, qui occupaient donc autrefois je ne sais quelle fonction, je ne sais quelle place dans leur société de J et de B, en fait, sont revêtus d'habits chinois. D'ailleurs, c'est une proportion. Alors, ils ont un certain nombre de privilèges, c'est une élite. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont eux qui dirigent la société, ils vont la diriger grâce à tous les avantages que leur procure ce nouveau système. Quelques exemples précis. Le système chinois est donc tel qu'il est appliqué au Japon, prévoit que toute personne qui a un rang et ou... Ah non, ça peut être tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a forcément un rang. Dans ce système, on a forcément un rang, mais on n'a pas toujours une fonction. D'ailleurs, on verra, c'est un peu le problème. J'insiste sur ce point, je vous dis comme ça. C'est vrai que c'est étonnant, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des rangs, qui vont à l'université, qui sortent donc, qui sont promus par l'empereur à tel ou tel rang, et puis ils peuvent attendre pendant 10 ans, 20 ans d'avoir une fonction. Bon. Donc ça veut dire que tout fonctionnaire a un rang, mais tout fonctionnaire n'a pas de fonction, je ne voulais pas. Alors, nos fonctionnaires qui ont un rang, et quand ils ont un peu de chance, c'est-à-dire finalement quand ils sont très haut placés, ces fonctionnaires-là ont des privilèges. Ils ont des privilèges donc, en fonction de leur rang et en fonction de leur fonds. En fonction de leur fonction. Voilà. Donc dans ce système, il vaut mieux avoir un rang et une fonction parce que on touche le double. Et ça, les salaires. Donc on reçoit un salaire pour sa fonction, mieux vaut avoir les deux plutôt qu'un seul rang. Ce salaire, c'est par exemple des allocations, c'est-à-dire des biens. On ne va pas refaire la liste, mais on avait parlé d'outils, de tissus, donc des biens matériels que l'on reçoit. Ça peut être également, donc ça c'est vraiment important, on verra ça un peu plus tard, ça peut être un certain nombre de lots de rizières. On peut recevoir également donc les services, c'est-à-dire les corvées de personnes qui sont à votre disposition. Voilà tout ce que l'on peut recevoir lorsqu'on est un fonctionnaire de l'État régi territorial, régi par l'école. Et c'est là encore que j'insiste sur le fait que, comme je vous l'avais dit la dernière fois, ce n'est pas donc des gens qui importent un système chinois parce qu'ils trouvent ça intéressant d'être plus civilisés à l'intérieur du Japon. Ça permet, en privilégiant donc les fonctionnaires, par exemple sur le plan économique, de reproduire, mais d'une autre façon, donc, l'exploitation qui existait auparavant, mais dans d'autres cas. Donc c'est vraiment un système. Est-ce que ça ne fait pas très romantique de dire ça, et puis c'est peut-être ma manière de... Il a des habits et des allures. Nos fonctionnaires, qui sont au service de l'État, finalement, d'autres personnes. Tu t'es parlé de privilèges, des privilèges publics, comme ceux que je viens d'énumérer, des privilèges, je passe sur le plan quand même intellectuel, culturel, c'est essentiel pour dominer un vernis chinois en l'occurrence. Donc le fait qu'ils puissent entrer nos fonctionnaires, ils deviennent fonctionnaires après, hein, mais que les futurs fonctionnaires puissent être formés dans des écoles où ils apprennent donc ce qu'il y a de mieux, poésie, etc., venant de Chine, est un privilège, c'est un privilège. D'ailleurs, les écoles ici qui intéressent donc la majeure partie, hein, je vous le dis, donc c'est vraiment un privilège. Prenez la mesure d'avirer la cantine, le chinois, mais tout le reste est bien sûr donc des privilèges de formation et de culture, on va dire. Troisième forme de privilège, certains, quand ils sont issus de très aristocratiques, arrivent à obtenir des premiers rangs, s'empêche parmi les privilèges, le fait de pouvoir passer d'examen. Et puis on ne va pas faire toute la liste des privilèges, mais on peut en faire être dispensé de certaines sanctions. Vous avez toutes ces fonctions dont on a parlé la dernière fois, de certaines sanctions, donc quand on est très important. Par exemple. Toujours un peu sous condition quand même, l'exemple que j'ai c'est celui de réduction de peine si l'on paie une certaine quantité de cuivre. Voilà. Donc autre partie. Voilà. Alors, il y a un deuxième problème de cette idée que ce système-là sert l'élite du passé, de manière chinoise. un système d'exploitation. Donc, le problème, c'est, mais finalement, qu'est-ce qui distingue ce Vitsulio étatique de son modèle chinois? Donc, ça, c'est fondamental. En fait, les Japonais s'intéressent pas tellement là, c'est tout ce que je vous ai dit dans les cours précédents, c'est qu'en fait, on fait de l'histoire consensuelle. On fait de l'histoire un peu selon ce que les Japonais nous disent. Mais voilà, des choses qui les intéressent pas, de savoir comment... Enfin, je parle des historiens, hein, ça ne les intéresse pas vraiment de savoir comment le système a été importé de Chine. Ils savent bien, ils voient bien que ce système-là que je suis en train de vous décrire est totalement chinois à l'origine, mais le fait de comparer véritablement les deux systèmes, celui qui marche sous les temps et celui qui marche au 8e siècle ou au 9e chez eux, ne les intéresse pas, sans doute parce qu'ils ne veulent pas trop passer vous et moi, enfin pour l'instant, et vous quand vous serez historien, et le problème de la comparaison ne les a pas intéressés. J'ai quand même cherché au moins quelques noms pas copiés tel quel le système des temples. Pas raison donc de le croire, même si je suis pas spécialiste de la période. La première, c'est d'abord le nombre de fonctionnaires, peu nombreux. J'avais déjà fait un mouvement à ce fait-là, il y a quelques beaucoup moins nombreux, à la fois bien sûr en termes. Alors, j'ai fait des petits calculs, d'ailleurs. Je vais vérifier 10 fois, mais vous avez déjà les données, il suffit juste de les prendre dans le cadre de cette problématique. Nous avons parlé au 8e siècle de 6, et je ne vous ai pas dit que sur ces signes de japonais au 8e siècle, à l'époque de Nara, il y avait en fait à peu près 10 000 fonctionnaires, et en plus, on fait ce qu'on peut avec des chiffres. Hein. Donc ça, c'est quand on regarde un peu dans les détails, il n'y avait pas vraiment 10 000 fonctionnaires, c'est-à-dire 10 000 personnes qui recevaient vraiment un rang. Il y avait 10 000 fonctionnaires et employés, la part relative donc des uns et des autres. En gros, 10 000 fonctionnaires et employés, essentiellement un seul Anala, qui a horreur d'aller en province. Et d'ailleurs, ils auront de plus en plus horreur d'aller en province. En fait, c'est un déshonneur, en quelque sorte. Donc, ils y vont quand même parce que, dans, je dirais, leur cursus honorum, il faut bien passer par la province pour ensuite recevoir des fonctions plus importantes. Mais les fonctionnaires de Nara et de l'école de Meian, plus tard, ont strictement horreur d'aller en province. Mais il y en a, et d'ailleurs, j'aimerais quand même vous dire, pour que ce soit un peu concret, là, dans les Kuni, les 60 et quelques Kuni, 2 et 8 fonctionnaires du 8e siècle. Pour vous donner un peu une idée. Donc, envoyé par le centre, venant de la capitale, de 2 et 8, c'est franchement pas beaucoup. Donc, vous dites, le reste est un ala. Ils sont fondamentalement donc, autour de la personne de l'empereur, installée dans la capitale impériale. 60 et quelques provinces. Alors, mon petit calcul, 6 à 7 à 8 millions d'habitants pour le 8e siècle. En même temps, 10 000 fonctionnaires et employés pour cette période, essentiellement donc. Pour Basnala, ça fait donc un fonctionnaire pour 700 habitants, je pense, un fonctionnaire pour 700 habitants au Japon. Alors j'ai fait le même calcul pour la Chine, ça tombe bien, on a des chiffres de la population et des fonctionnaires, donc je suis allée regarder du collègue sinologue. Pour la Chine, on avait vu donc au 8e siècle environ 50 millions d'habitants. Donc, sachez que pour ce qui est de leurs fonctionnaires, non, c'est pas beaucoup non plus, hein, c'est entre 150 et 160 000 fonctionnaires et employés en Chine, donc au 8e siècle, sur ces villes à la capitale, et la capitale, vous savez, c'est Chang'an. Ce chiffre de 150 à 160 000 ne comprend pas tous les soldats. Et vous savez que c'est Chang'an. Mais bon, peu importe, on va. Fonctionnaires chinois pour 312, donc deux fois plus. Ce sont des chiffres extrêmement relatifs, faire un peu une idée. Deux fois plus de fonctionnaires, relativement, en Chine qu'au Japon. Voilà. Ça veut dire que. On a déjà une indication, je dirais, de la faiblesse du Vitsulio Kōbika par rapport au système des temples. Et de fait, on verra que plus les années passent, le nombre de fonctionnaires n'augmente pas réellement. Hein. Le nombre de fonctionnaires n'augmentera pas réellement. Plus les années passent, plus le système donc, du Vitsulio Kōbika s'affaiblira. Et une des raisons, c'est de pas assez de fonctionnaires, tout simplement. Et au début, en fait, vous voyez que les fonctionnaires japonais sont beaucoup moins nombreux relativement que les fonctionnaires chinois. Enfin, c'est un des signes qui nous montre qu'on est dans un système purement idéologique. C'est-à-dire qu'on ne copie pas la Chine à la lettre. On fait ce qu'on veut du modèle qu'on importe, qu'il y avait moins de gens formables au Japon pour X ou Y raisons, on n'a pas pu donc avoir autant de fonctionnaires au Japon. Deuxième chose, j'en avais déjà parlé, donc je vais aller vite. Les examens au Japon jouent un rôle beaucoup moins important qu'en Chine. Non pas qu'il n'y ait pas d'examen, je vous l'ai dit, en fait, chaque fonctionnaire, pour recevoir un rang, sauf exception, passe par l'examen. En fait, ce sont des devoirs sur table. Donc, c'est vrai, en général, finalement, je vais demander comment ça se passait. Ce sont des expositions, je crois. Il y en a quelques-unes, quand même plusieurs compositions. Pour tout vous dire, quand on entre dans les détails, en fait, ça, il faudra... Donc là, j'ai pris mon téléphone, ça a été plus vite, savoir, j'ai simplement pris mon téléphone pour lui demander comment ça se passait. Donc des compositions qui portent sur la connaissance de classique chinois, poésie, etc. Je vous dis tout à l'heure, il y en a plusieurs. Et il faudra bien le savoir, c'est que les maîtres choisissent ceux qui vont faire passer l'examen. Bon, voilà, ça vous dit déjà que ceux qui devront sélectionner au départ, c'est comme... C'est pas comme vous. Moi, j'ai choisi personne pour un examen. Bon. Ça indique déjà que l'issue des examens est relativement connue à l'avance. Et de fait, le système des examens au Japon est purement formel. Et autrement dit, il faut être extrêmement génial pour, fonder sa carrière sur la réussite de vos examens. Vraiment être génial. Parce que si vous êtes, il suffit simplement d'être quelqu'un d'important socialement parlant, pour réussir ses examens, avoir les rangs, les fonctions, et surtout toutes les terres et autres biens qui vont avec. Mais pour le reste, en fait, vous n'êtes absolument pas reconnu en famille, et vous savez, à certaines périodes des temps, de la position, en fait, on a vraiment promu le mérite et la réussite de l'examen. Ça n'a jamais été le cas au Japon. Et ce sont des exceptions, en fait. Les gens qui fondent leur carrière sur la réussite des examens, ce sont des exceptions. Voilà. On a d'ailleurs un ou deux exemples très concrets. Donc, les examens jouent un rôle beaucoup moins important au Japon, mais ça fait du membre d'un grand Fuji et que l'on se pare de la situation chinoise. Il est déjà réussi à l'avance. Donc, ça, c'est la deuxième différence. Donc, c'est bien qu'il est assez connu. Hein. Donc, s'il est assez connu, les examens au Japon n'ont pas beaucoup de valeur. Les autres, c'est une c'est assez fou. Mais évidemment, ils n'ont aucune importance. Sauf que c'est difficile d'entrer à l'université. Il y a une certaine université. C'est assez tranquille. C'est un peu les gens qui ont des avachis. C'est un peu ça. On fait beaucoup de musique. Les universités japonaises actuelles, on la reconnaît dans la rue en tournant une musique. Elle est plus forte que l'université. Puis alors, vers 5 heures, tous les gens et tout. Quand à l'université japonaise, on ne fait pas grand-chose. Même à l'université de Tokyo, il y a des gens qui travaillent quand même, hein, les japonaises. Mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec notre problème. Et troisième chose, donc troisième différence, on apporte un modèle et on en fait ce que l'on veut. Souvent, les organes, ces bureaux ministériels appliqués au Japon, souvent n'ont pas le même nom que leurs homologues chinois, donc il n'y a pas. Ils n'ont pas le même nom et ils n'ont pas la même fonction. Ils n'ont pas la même fonction et ils n'ont pas non plus le même rang. Un exemple très précis sur lequel on reviendra assez souvent, le ministère, dont je vous disais à l'époque déjà le Jin, ministère justement, Jingi des dieux. Mais vous entendez ici pas dieu du panthéon bouddhique, hein, mais dieu du Shinto, du panthéon Shinto, donc les Kami. Jingi-gan, le ministère, on va dire, en fait, des affaires des dieux. C'est comme ça que en général, le ministère des affaires des dieux, comme étant en fait le ministère suprême de cet état, et le ministère le plus important, celui qui a la plus grande valeur. Faites attention, il n'y a pas de ministre des affaires des dieux. Donc faites attention, hein, c'est pas parce qu'il y a un ministre des affaires des dieux, mais ce ministère reste l'organe le plus important. Là encore, c'est pas très étonnant, on est dans un système japonais tout de même, même si on se réfère à un modèle chinois. Ce système japonais donc, est englué d'imaginaire japonais, c'est-à-dire de Shinto, et on met en avant un ministère qui est au service des kami, c'est pas étonnant du tout. Donc ce ministère, je crois que c'est en Chine, mais en Chine c'est qu'un tout petit ministère. Évidemment, en Chine, le ministère des dieux, c'est pas les dieux tels qu'on les conçoit dans le Shinto du Japon, hein, mais peu importe, ce sont des dieux quand même, des divinités non bouddhiques. Donc ce système, ce ministère de Shinto se compose de ce modèle chinois. Ça va, vous n'êtes pas trop écrasé? Non, ça va. Bon, alors on continue et on aborde un dernier grand principe. Et je vous laisserai sans doute quelques minutes de répit, les principes socio-économiques. Comment la société et l'économie, donc, marchent-elles à partir du moment où on importe les individus? Alors, donc là, on va rentrer encore dans un monde totalement nouveau, puisque c'est nouveau au Japon. Tout repose, je dirais, sur le principe de... Alors, le mot est très mauvais, hein, d'ailleurs. Les gens qui en général ne l'aiment pas, mais peu importe. Je suis pédagogue et c'est un cours d'initiation. Tout repose un peu sur le principe de nationalisation des terres. On va résumer cette affaire comme des hommes. Des terres et des hommes. Autrement dit, on avait vu déjà que dans la seconde moitié du XVIe siècle, que l'été, en fait, se désagrégeait. On arrive au 8e siècle avec une étape supplémentaire, je dirais, dans la centralisation du pouvoir impérial, désormais dans les codes. Et semble-t-il, dans une partie de la réalité, les hommes ne relèvent plus ni des baies, ni des riches, mais uniquement de la personne de l'empereur. Toutes les terres et tous les hommes, quel que soit leur rang, qu'ils soient esclaves, d'ailleurs les esclaves dans les comptes, mais peu importe, mais existent quand même, ou qu'ils soient hauts fonctionnaires, ces gens-là appartiennent à l'empereur. Voilà une manière donc de dire combien. Concrètement, nationaliser les hommes, ça veut dire que désormais, sur le papier du moins, ils ne relèvent plus que de l'empereur, qu'on ne les considère plus comme appartenant à un clan, à un des individus, 1, 2, 3, etc., jusqu'à 7 millions, qui relèvent de cette terre. Quant aux terres, elles aussi, appartenir à l'empereur avec tout ce que ça suppose en termes de passer, les exploiter de diverses manières. Alors, je dirais que pour résumer le système, si, bien sûr, mais on les verra au fur et à mesure. Et puis, bien sûr, la prochaine, et il y a une manière encore plus efficace de ne pas de déguerpir, de partir. Quand un puni devient dominé, simplement. Enfin, donc il y a des rébellions, bien sûr, mais il y a aussi ce qu'on appelle la grande histoire, on a d'autres visages, et c'est une tradition historiographique qui avait bien sûr toujours toutes ces luttes avec les gens qui habitent au nord-est de l'archipel et qui en fait veulent imposer un système et des gens qui veulent le fuir. Alors, tout repose un peu sur le système des lots, un lot, donc parcelle de terre que l'on va désormais distribuer, en tout cas sur le papier, c'est comme que de découper le territoire en un certain nombre de lots et d'attribuer ces lots à chaque. On rappelle donc ne relève que de la personne. Donc ces lots sont individuels. Sur le papier, ils sont individuels, vous les recevez. Ce qui peut vous paraître bizarre, mais en fait, c'est pas. Il y a des gens qui ne reçoivent pas de lot et qui ne sont pas soumis non plus au système fiscal qui va être bientôt, de recevoir un lot et de payer des impôts sur ce lot et marque d'intégration dans cette société. Tout le reste, ce sont des esclaves, des dépendants, des domestiques, etc. Et en fait, c'est plutôt une marque, je dirais, normaux. Ceux qui sont ni esclaves, ni domestiques, ni dépendants, etc., reçoivent un lot à titre individuel. Vous êtes homme, viager, à vie. Et vous êtes censé. Ils ont aussi pour point légal, selon donc. Et pour les autres hommes du commun qui ne sont pas viagés, ils sont reçus pour la vie. Illégal, donc on ne découpe pas, c'est pas le même. On ne reçoit pas le même. Et ces lots ont aussi pour point commun le fait d'être taxés. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont inséparables. Je veux dire, avant de voir cette artisanale, une partie de la réalité. Ils ne concernent que des rizières. Ça, c'est vraiment très important. On en avait parlé un peu la dernière fois. Donc c'est là qu'on voit qu'on est dans... toute la terre n'est pas... les portions de la terre japonaise qui produisent du riz, ce qui est champ sec, des rayadigués, ou par exemple des haricots, ou du millet, ou du sarrasin, tout ce qui est jardin individuel, des personnes ou familiales, tout ce qui est même habitation, là où vous avez votre maison, tout ça échappe au système des rizières. Voilà. Donc on est dans un pur système idéologique. On importe de Chine, la chinois est plus civilisé, et en même temps, l'État du Mitsubio ne se, c'est assez intéressant d'ailleurs, ne s'intéresse pas à l'essentiel du territoire japonais, de rivière ou de je ne sais quel autre type encore. Sans doute parce qu'il est prisonnier d'un modèle chinois qui valorise la riziculture. Ça c'est vraiment très important. sais pas si... Non, j'ai pas compris. On reçoit un lot, mais ce lot, en fait, appartient à l'empereur. N'appartient donc à l'empereur que les lots de rizière. Tout le reste, mais c'est écrit nulle part hein, que ça vous appartient. Tout le reste échappe à ce système. La vôtre, beaucoup de choses. Et c'est grâce à cela que la population survit, soit disant, échappe à l'État, volontairement à l'État. L'État aurait tout très bien imposé le reste, mais c'est quand même tout ce qui échappe à l'État, toute la population, en fait, arrive à vivre quand même.
Se transmettre de père en fils, de père
non, en... alors j'en viens à ce point de détail, je vous réponds dans un instant. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, vous recevez un lot viagier, mais vous comprenez bien que dans une population, il y a des gens qui tombent malades, donc ils ne peuvent plus cultiver, d'autres qui meurent, autrement dit. Il y a des gens qui déguerpissent, comme on a vu, et ça c'est assez récurrent dans ce système-là, où on échappe quand même à cet état impérial. Monsieur ? Résultat, pour toutes sortes de raisons, l'État doit toujours surveiller la redistribution des lots. Et il est prévu, au moins sur le papier, que tous les 6 ans, on reconsidère les districts, etc., qui possèdent tel lot et qui ne les possèdent plus. Et pour tous ces lots, retombent dans la caisse de l'État et sont redistribués à de nouvelles personnes, de nouveaux adultes, etc. Bien sûr. Donc il y a un système de révision tous les 6 ans. J'aimerais que vous compreniez, on ne taxe que, en parlant des taxes, chaque lot de rizière est taxé. On a évolué donc, on a évalué à environ 1/4 de la production rizicole ce qui est taxé. Les taxes reviennent donc à la consommation personnelle des propriétaires à l'État. Mais franchement, nous restons dans une société extrêmement rudimentaire. Chaque fois, inondation par-ci, un tremblement de terre par-là. Tout est constamment remis en question, enfin, je ne voudrais pas trop faire pleurer les chaumières, mais tout ça, c'est sur le papier, qui soit garde 3/4 de sa production rizicole, mais qui est constamment soumise à n'importe quel tremblement de terre, etc. Et c'est vrai que les gens, je crois que c'est pas drôle. Voilà. Bien que c'est un point contre eux, de tout le monde, c'est des champignons. Enfin, tout ce qui relève à la cueillette, champignons. Châtaignes, parce que les châtaignes, on les trouve dans l'histoire de la civilisation depuis très longtemps. Les châtaignes pour le bois, ce sont des choses qui sont vraiment consommées. Le poisson, bien sûr, la viande, les pêches, les haricots, tout ça. On se nourrit de tout ça. Les chichons, hein. C'est-à-dire que là, j'ai l'air de faire étalage d'un supermarché dans les têtes. Il faut que les conditions météorologiques soient bien, qu'on ne vous ait pas volé votre bien, que les fonctionnaires n'aient pas hélas, et ça fait tellement de conditions mal. C'est monstrueux quand on est pas bien. Oui. L'empereur est assez fonctionnel et au système. Alors le 1/4, c'est ce qu'on a estimé. Si on a estimé, ça veut dire que ça doit être fait. On sait que quand il y a une chaleur qui vous brûle tout bas. Les fonctionnaires sont toujours les mêmes. Après, c'est une question de rapport de force entre ceux qui produisent et ceux qui. On peut toujours tirer un peu sur la corde à la population, mais si celle-ci déguerpit ou se révolte. Alors, je crois que ça fait pour tout ce que j'avais à vous dire sur ce système. Oui, un exemple que je donne toujours pour vous. Sachez quand même que ce système est évidemment. À propos des lots, quand même, il me restait à vous donner une petite estimation de l'inégalité absolue de la distribution de ce système-là. On distribue un ou des lots à chaque individu, mais comme on est dans une société extrêmement hiérarchisée et les lots n'ont pas la même taille, un exemple, un fonctionnaire de premier rang, donc l'élite de ce système, reçoit, on a estimé qu'il peut recevoir. C'est pas mal, 80 et... Quant à un individu normal, c'est sans doute un petit notable de province, pas trop bas dans l'échelle donc, sociale, un individu mâle, ordinaire, je dirais, ne reçoit que 22 arts, et âme, ordinaire, 15 arts. Mais les fonctionnaires de premier rang sont extrêmement rares, hein, soit dit en passant. La classe des fonctionnaires, ça serait bien les fonctionnaires, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais disons que c'est vrai, on a eu...
22 arts.
Pendant longtemps, on a eu tendance à un peu...
C'est pas des hectares, c'est des arts.
Le système...
Ce que les fonds, c'est un multiple.
Il y a quand même une économie assez rudimentaire, fait qu'on n'a pas multiplié
à travers
les siècles le nombre de fonctionnaires. Multiplié à travers le siècle le nombre de fonctionnaires, sans doute parce que la vie est les privilèges qui allaient avec. Je ne sais plus si je réponds à la question ou pas.
La chasse est réglementée.
Attendez. Donc, c'est important. Non, non, non. D'abord, je vais vous demander de vous taire et que je réfléchisse tranquillement. Monsieur, alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit sur la chasse parce que là, après, il faut connaître la réalité. Je sais que je peux vous donner deux éléments de réponse. Réglementer d'un point de vue des règles de gymnastique, dans les mœurs de la Cour, on édite un certain nombre de textes, un des hommes et puis de l'autre, il y a tout le reste de la nature, pour, les hommes ou alors les démons sont importants et on les respecte. Au moment où on instaure cette idéologie à la Cour, il arrive qu'on débute la chasse. Et puis après, dans les détails, tout est l'objet d'un tabou. Et donc, tout ici est, réglement, on ne mange pas de bœuf, par exemple. Et je sais que le troisième élément mange assez couramment depuis la préhistoire du Japon. Poulet de coq, je crois, en tout cas, poisson de viande, des sangliers, et puis après là, c'est possible. Voilà quelques éléments de viande. Donc, oui, comment pour. Promis, et puis. Une fois. Deux, trois minutes.
Je crois que le cours de lui ou vendredi, c'est samedi, parce que samedi, je crois qu'il est trop pressé. Il passe à l'esprit speed.
Ouais.
Là, les dégâts de c'est tracté.
C'est un peu mieux, là.
Ouais.
Mais elle oublie des choses et elle les rattrape le samedi.
Ouais. Le mec qui est en haut.
C'est pareil, parce que c'est. Les choses qu'elle voulait dire, c'est. Je suis même
Kylie.
Tu veux pas faire un chien partiel.
Ah ouais, t'as un papier?
Non.
Ça se voit à ton sourire. Je te l'ai dit,
je suis tout le temps souriant.
Je reconnais les gens qui me.
Je suis une personne heureuse, je souris, c'est pour ça.
Non, ça se voit à ton sourire, c'est toi. Ça ne pouvait pas être elle.
C'est pas
je t'ai vu
bouger
un épaule en fait. Moi je me suis retournée, j'ai vu un truc genre.
J'ai une
question.
Les polyrites en fait.
Les polyrites. J'ai des parents infirmiers, je te le rappelle.
Ouais.
Voilà, Jordan, je suis fier.
Mais si tu te compares à lui,
ça fait depuis le début, c'est pas très dur.
Ah bah si, Ah bah Iso.
Non mais par rapport à lui, je veux dire.
Tu sais, t'es Yuku qui au coup, c'est difficile comme.
C'est
pas difficile, mais c'est plus difficile à retenir. Je sais pas, Jido, Hanpai, Jumi,
c'est pas bien ça.
Distributeur de automatique de boissons.
Ouais, d'accord.
Jido, c'est que café ou. Donc, oui, en fait, tu vois, c'est divisé en deux. D'un côté, contrôle continu,
ouais.
Et examen final. De
toute façon,
j'ai. Donc, examen final, c'est t'as les cours. Puis à la fin, t'as l'examen.
Je fais pas ça, je fais les cours. D'autres coups, pas
les. Donc, t'as qu'une note. Alors que là, et qu'il y a un certain nombre de coefs.
D'accord.
Et ensuite.
Tiens, attends.
C'est quoi?
Mais j'ai pas compris pourquoi.
Elle est pas lente. Elle est pas lente, elle est normale. Quoi.
C'est un micro.
Il n'y a pas beaucoup de
temps. C'est chaud, t'aurais pas une réserve en place.
Bah attends, mais franchement.
Il est jeune.
D'habitude, tu as
cherché les solutions à son jeu.
Non, mais moi, je veux pas me foutre derrière.
Ouais, mais nous, on voulait être devant aussi. Si on en rejoue.
Ah oui,
donc tu viens avec nous alors demain, à 15h ou tu veux à
15h.
mais avec
Non, je ne vois pas.
Ah oui, non.
Nancy et Laurent Rodrigue.
Ah oui, on peut dire.
Bah, bah, non, non, si tu vas à une enfant, tu vas à une queue.
Non, c'est la même chose. Même en fait, je dis une enfant, mais c'est vrai que 15h, en fait, ça m'arrange.
Je ne sais pas, ça permet de bêtard. Pareil pour toi.
Bah ouais, moi, j'ai une super tard.
Ouais, c'est pas pour moi, parce que moi, je commence à manger.
Là, t'as plusieurs contrôles, ou partiels.
On va commencer par une question. Chinois également en ce sens
que certains, je dirais, certains de la civilisation chinoise sont clairement donc repris dans cette histoire du Japon. Certains traits, par exemple, la voie du Yin et du Yang, dont on a parlé, dont on va surtout reparler un peu plus tard, est perceptible en l'air de raconter l'histoire. Donc ça, c'est pour les spécialistes des éléments de religion chinois que l'on retrouve dans ces histoires du Japon. Enfin, et chinoise également, dans ces histoires du Japon, l'idée que seules les autorités, et en l'occurrence, la en tout cas les gens de clan très importants, sont autorisés à écrire. Donc, c'est pas n'importe qui. Hein. Vous verrez, enfin, vous ne verrez pas, mais je vous dis comme ça, au fur et à mesure que les siècles passeront, tout le monde aura tendance à écrire son histoire, l'histoire de son clan, de sa région, etc., au Japon. Et on verra au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, n'importe qui, c'est-à-dire même le paysan de base, j'exagère, celui au moins qui sait lire et écrire, rédiger l'histoire de sa famille, de sa région. Cette habitude va se dire avec les siècles, mais au début, on n'écrit l'histoire que lorsqu'on est investi d'une autorité particulière dans la société. Et donc, ça c'est complètement chinois, l'histoire est un fait impérial, est une pratique impériale. Et Chi, Atenu, Tenno, au sens générique du terme. Alors, vous avez bien opéré les quatre. J'ai dit cette idée de réviser l'histoire du Japon est chinoise. En revanche, cette expression, le contenu même, et de l'autre, ce qui est très étonnant dans les deux livres dont on va parler maintenant, c'est que tout de même, on écrit l'histoire là où on voit encore une fois que l'importation du modèle chinois, c'est bien sûr, on l'avait vu donc pour montrer aux Chinois qu'on est un peu civilisé, qu'on sait écrire son histoire, mais c'est surtout, surtout sans doute, l'idée que que toutes ces choses qui viennent de Chine, en fait, servent des intérêts nationaux de Chine. Alors, en dehors de ces deux ouvrages inconnus de Chou de Peixé, j'avais déjà parlé donc, de ces ouvrages dont maintenant et aboutissant en détail. Vous avez d'une part les notes sur le passé. Vous avez d'autres traductions possibles, hein, mais on trouve le Kojiki, qui, pour notes, on pourrait d'ailleurs... notes... pour qui, c'est les faits, les choses, et co, c'est ancré, ou note sur les choses anciennes, ou chronique sur les choses anciennes, en 712. Donc, rédigé avant, mais à mon avis, on a déjà parlé une ou deux fois, c'est chronique au Kogel, qui, en fait, sont pensées à l'époque comme un complément du Kojiki. Donc, au début, ce sont deux œuvres très, très différentes et très distinctes l'une de l'autre. Mademoiselle, Kojiki.
Pardon ? Ça veut dire quoi, co, et ça veut dire quoi, jus ?
Non,
mais ça veut dire quoi ?
À répéter la traduction, une des traductions donc couramment admises en français, note sur le passé. Alors, je vous ai dit que pendant longtemps, le Kojiki était peu connu. On le connaît à partir du XIVe siècle, le Kojiki. On connaît son existence bien avant, mais on connaît vraiment le texte à partir du XIVe siècle et encore à partir d'une copie. Et pendant des siècles et des siècles, donc du 8e, même jusqu'au 19e siècle, non, on va dire jusqu'au 18e, soyons précis, du 8e siècle jusqu'au 18e, donc pendant 1000 ans, seul le Nihonshoki a vraiment été. Alors, on va parler de ces deux œuvres, on va voir un peu à quoi ressemble l'histoire du Japon. Je pense qu'on n'aura pas fini, mais peu importe, on va déjà commencer. Alors j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. On va commencer par quoi ? Bon. Donc, ces deux œuvres racontent l'histoire du Japon, des marches chinoises. Kojiki la raconte des origines au règne de l'impératrice Suiko. L'impératrice Suiko, vous savez, donc, cesse de... le Japon et meurt d'ailleurs en 628. Donc c'est des origines. L'année 618, vraiment très important. Il y a plein de points de repère comme ça. Donc Jureo, qui a gouverné donc, de 690 à 600. Voilà. Alors les origines, c'est quoi ? C'est quoi les origines du Japon des siècles ? Alors, je dirais qu'elles sont assez chinoises parce que lorsque vous ouvrez, donc je vous ai apporté cette pierre en pierre chaque année, en français, le Nihonshoki est traduit en anglais, mais je vous parlerai surtout du Kojiki, celui d'en passant, mais et pas du Nihonshoki, mais quand vous ouvrez donc en fait votre Kojiki, d'ailleurs c'est plutôt ancien de cette affaire, ben voilà, la première page, en dehors d'un prologue, dont on reparlera plus tard, c'est l'origine pour un japonais du 8e siècle, c'est au commencement du ciel et de la terre. Les origines, donc on va très loin, dans l'origine du Japon. Et pour le Nihonshoki, donc c'est pas au commencement du ciel, d'une manière un peu différente, c'est lorsque la terre et le ciel n'étaient pas encore séparés. Voilà, tout ça est assez chinois, parce qu'on n'est pas tout à fait certain quand même que dans ce Shinto qu'on connaît, le Kojiki et le Nihonshoki, on n'est pas tout à fait certain quand même qu'il y ait une distinction entre le ciel et la terre. En revanche, on est absolument certain qu'il y a eu, donc, dans la pensée chinoise apportée au Japon, et dans la pensée chinoise, une distinction entre le ciel et la terre qui nous disent les vieilles légendes chinoises, pas toujours indistinctes. En fait, au départ, et quand vous lisez le Kojiki et le Nihonshoki, alors lorsque la terre et le ciel n'étaient pas encore séparés, vous entendez la mythologie chinoise, vous entendez quelque chose de chinois, déjà. Et pour le reste, beaucoup de choses sont relatives au. Pour le Kojiki, il est écrit en japonais, ce qui a posé pendant longtemps l'insurmontable de lecture, pour lire ces caractères chinois en japonais. On écrit en japonais. La littérature classique du Japon, enfin, je parle pas de littérature au sens roman, fiction, etc., mais littérature, livre d'histoire, tout ce qui est un peu officiel est écrit en fait au Japon en chinois. Alors, donc je vous donne quelques informations de base avant l'entrée. Donc, deux livres produits en même temps, qui ont la même origine, vous le savez, c'était Nintendo. L'un est écrit en japonais, l'autre est écrit en chinois, et les deux livres sont perçus comme dès le début, l'un dépassant un peu de l'autre en termes chronologiques.
Monsieur. Ça, si le Kojiki est disponible à l'achat.
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que cet ouvrage d'année dernière, il a dû être. 69. Alors. Alors, ce qui est assez fascinant, quand même, le Kojiki, quand vous le lisez de A à Z, vous apercevez que les choses ne sont pas du tout cohérentes. Je vais vous donner des choses très concrètes un peu plus tard. Donc, c'est déjà une œuvre assez incohérente en elle-même, en ce sens qu'elle dit une chose à une page et qu'elle va affirmer le contraire, ou quelque chose de clair à une page différente. Pas d'unité non plus dans le Nihonshoki, et encore moins dans le Nihonshoki, parce que autant dans le Kojiki, quand vous le lisez, vous avez l'impression comme ça, très superficielle, tout en passant, d'une certaine unité, vous suivez une histoire jusqu'à Suiko Tenno, autant quand vous lisez le Nihonshoki, c'est clair, vous ouvrez le bouquin d'ailleurs, il est plus gros, en fait, tout en passant, vous ouvrez le livre, et vous voyez qu'en fait, il est composé d'une série de chroniques différentes, c'est-à-dire que pour un même fait, un même événement, un même âge, vous avez plusieurs versions. Et donc là, vous avez encore moins de cohérence. Donc, une des choses essentielles à retenir sur ce livre en termes de, en soi incohérent. Donc, ne vous attendez pas à ouvrir, donc, comme nous, un auteur ou plusieurs auteurs, qui est et dans le Nihonshoki et dans le Kojiki, vous avez donc des incohérences qui font partie du livre et qui s'expliquent sans doute par le fait que comme assez politique, où on a rassemblé plusieurs versions de l'histoire du Japon venant de plusieurs provinces. En fait, on a tout accumulé, je dirais unifié que la nôtre, c'est une manière d'écrire l'histoire, on a tout accumulé, puis on a tout ramassé, on a fait une collection de tout ce qui se dit, puis on en a fait un livre, d'où les incohérences, enfin ce qui nous paraît être nous. Donc c'est la première chose, le contenu de chacun de ces. Deuxième chose, entre le Kojiki et le Nihonshoki, le Kojiki ne le dira et vice-versa. Donc vous faites attention, vous n'avez pas là, vous avez là une version officielle de l'histoire, dans les deux, mais assez hétéroclite. Alors, à quoi servent ces livres en dehors du fait de la Chine? Manifestement, ils servent à écrire une histoire qui soit, donc c'est une commande impériale, hein, à écrire une histoire qui soit favorable au clan du Yamato, au début du 8e siècle, c'est clair. Et d'ailleurs, Kojiki dit clairement que Tenno Tenno, ou je dis oralement, que, je cite, les annales impériales et les récits aux des familles ne sont pas conformes à la vérité. Il y a beaucoup d'erreurs qui s'y sont introduites, donc nous avons fait le fait d'emblée, ce sont des livres qui sont là pour corriger tout ce qui s'est écrit jusqu'à présent. Comme c'est la famille impériale qui commande certaines nous, et que c'est les autres tenmous, donc qui prennent la suite, vous imaginez bien que les versions, même quand elles sont diverses dans ces ouvrages, favorisent avant tout la famille impériale. Donc ce ne sont pas du tout les ouvrages objectifs, pas du tout. Et telle manière de présenter les rapports de Kosei, que vous devez croire que ces gens-là, à l'époque, les rédacteurs, donc les candidateurs de ces gens, croyaient à ce qu'ils disaient. C'est vraiment très important. Ne croyez jamais ce qu'on vous dit, surtout quand c'est par écrit, surtout quand c'est pour servir des intérêts politiques. Et surtout, ce qui est important de savoir, il ne faut jamais croire que les gens qui... Et qu'on a l'impression que, ben, c'est pas pour ça qu'ils sont forcément honnêtes. D'accord ? C'est vraiment qu'il ne faut pas croire ce que disent les auteurs qui ont dévisé le titre très clair, à savoir, tout ça part, le clan impérial au début du 8e siècle, celui-là même qui produit cette époque. On va expliquer ça avec ce que nous appelons des mythes qui ne sont pas forcément pour eux monde. On va expliquer ça discursif ou imaginaire, c'est vraiment essentiel. Sinon, c'est vraiment essentiel. Panégyrique. Non, panégyrique, c'est quand vous écrivez un texte à la gloire de jeunes. Non, parce qu'il n'y a pas forcément de vision idéale. Ces gens-là se montrent assez violents. Excusez-moi l'expression, il y a beaucoup de sexe, beaucoup d'entourloupes. Les Camilles, qu'ils soient avec. On va commencer par cette histoire. Et puis comme ça, on va finir le cours sur une jolie histoire. Enfin, un peu hard. Alors, je vais vous dire en quelques mots, en fait, je dirais que le concept qui traverse toutes ces œuvres tout de même, c'est celui d'unité. Unité donc à la fois géographique et politique du Japon. C'est un peu ce qui traverse tout. Alors je vais commencer par l'unité géographique. Unité géographique parce que et le Kojiki et Nihonshoki vous disent que le Japon, et c'est pas évident, que le Japon constitue bien donc un territoire uni. Ce territoire reçoit un nom. Celui de Oyashima no Kuni, c'est le nom que l'on donne par exemple dans le Kojiki au Japon, c'est un des noms que l'on donne au Japon, c'est-à-dire en fait un pays, no Kuni, ici donc c'est pas le sens de province, hein, c'est le sens de pays, celui donc grandes îles. Shima c'est île, Ya c'est 8 et O c'est grande. Le pays des 8 grandes îles, Oyashima no Kuni. C'est celui donc dont l'histoire est racontée. Donc il y a une véritable unité géographique, idéologique, on a un objet. Et le Kojiki et le Nihonshoki nous disent que cette entité territoriale, politique, on verra dans le cours suivant, cette unité en fait vient de ce que, à l'origine, ce sont des kami, ce pays aux 8 grandes îles. Alors, les kami, il y en a depuis le début, et parmi eux, vous devez retenir, ce ne sont pas les premiers, mais vous devez retenir au moins le nom de ceux qui ont créé physiquement le Japon. Alors, l'un est un homme, une divinité mâle, Izanagi.
Tu sais, c'est lui que je le sais.
Et l'autre est une divinité femelle, féminine, Izanami. On parle parfois de Izanaki, parce que tout est une question, on rentre dans les détails, certains préfèrent Izanagi, d'autres Izanaki. Izanami, par contre, ne change pas. Izanagi, Izanami, pourtant, le haut kami, les grands kami que sont Izanagi et Izanami. Le problème, c'est que je voulais lire un passage. Ah oui, mais j'ai pas le temps. Je vais juste vous dire, et vous retiendrez ça, ce passage-là est trop important, de savoir qu'il a été créé par Izanami et Izanagi. Sachez juste quand même que ce sont à la fois des époux et des frères et sœurs. Très important. Ils sont époux et frères et sœurs. Et vous verrez que ça pose des problèmes quand même. Peut-être, d'après ceux qui interprètent ces écrits anciens.
C'est ton plaisir. C'est dans lequel il n'y a pas le machin.
Oui, parce que c'est la mythologie, ça.
J'ai des bouquins.